Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Itchari de l'équipe Podcastine.
TCA, trouble des conduites alimentaires. D'après l'assurance maladie, les troubles des conduites alimentaires sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Derrière ces trois petites lettres se cache l'anorexie mentale, se cache aussi la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Des termes que vous avez déjà entendus, qui paraissent peut-être simples, mais pour une prise en charge qui l'est beaucoup moins. Elle est pourtant essentiel. Depuis avril 2022, une unité dédiée a ouvert à Pessac, à l'hôpital Olévêque. Un hôpital de jour d'abord, puis un hôpital de nuit depuis septembre. 5 lits pour la journée, 10 pour la nuit, et déjà tous complets. Alors, ce qui fait la rareté de cette unité, c'est qu'elle accepte les adultes. Pour vous donner une idée, avant son ouverture, il n'y avait que 12 lits dans toute la Nouvelle-Aquitaine, pour soigner ces adultes malades. Parce que oui, avant toute chose, il faut rappeler que les TCA sont une maladie. Oui, les patients sont malades et il n'est pas question de nier cette réalité.
C'est une maladie psychiatrique, donc il faut prendre en charge d'une manière psychiatrique, mais avec des retentissements très importants en termes nutritionnels et somatiques. Et donc c'est pour ça que ce binôme psychiatrique-nutritionnel est très important et qu'on travaille ensemble avec Dr Sanchez. Et associé à ça, donc il y a ce travail aussi psychiatrique via le corps aussi avec le psychomotricien, il y a le travail diététique et nutritionnel, mais aussi c'est une maladie, nous on a un service d'addictologie, donc on prend en charge cette maladie d'une manière addictologique, et comme toute addiction, il y a aussi des retentissements socio-professionnels, familiales, et d'où l'intérêt d'avoir une prise en charge sociale aussi.
Celui que vous venez d'entendre, c'est le docteur Xavier Galvez. C'est lui qui co-dirige cette unité, avec la psychiatre Mélina Fatseas. Quand on pousse la porte de cette unité au deuxième étage de l'hôpital Olévêque, c'est lui qui nous accueille. Il est psychiatre et addictologue, et il travaille main dans la main avec le docteur Delphine Sanchez, qui est médecin nutritionniste et responsable de l'unité d'hospitalisation.
Alors on fait tout en binôme, toutes les réflexions. Alors déjà le projet de soins a été construit sur cette double compétence psychiatrique et nutritionnelle. Et on fonctionne toujours en binôme pour les décisions. Moi je fais la partie management du soin nutritionnel et le docteur Galvez toute la partie psychiatrique. Donc on réfléchit ensemble au projet de soins pour chaque patient.
C'est un projet de soins personnalisé en fonction de la sévérité des troubles que présente le patient. Et donc on va adapter, est-ce qu'il faut plus de la consultation, de l'hospitalisation de jour ou voire de l'hospitalisation complète en cas de troubles plus sévères. Et puis après c'est d'adapter, est-ce qu'il faut plus axer sur le côté nutritionnel dans un temps ou le côté psychiatrique de l'autre, travailler aussi sur la sphère diététique, psychomotricienne et aussi sociale. On a une équipe pluridisciplinaire qui permet de s'adapter aux patients, même si les troubles sont les TCA ont un socle commun, mais il y a des spécificités selon chaque patient.
Tout va ensemble, mais dans des proportions différentes. C'est-à-dire que pour des patients qui vont être en dénutrition extrême, ça va être d'abord une prise en charge nutritionnelle, puisqu'avec la dénutrition, de toute façon, il y a un ralentissement psychomoteur, il y a une humeur qui a baissé, donc il faut d'abord prendre en charge le côté nutritionnel avant de prendre en charge le côté psychiatrique. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le côté psychiatrique qui est le plus intense. Et l'aspect nutritionnel vient en second plan. Mais on est tout le temps tous les deux, mais dans des proportions différentes.
Et c'est là toute la force de cette unité TCA, la pluridisciplinarité. Tout le monde travaille ensemble. Psychiatre et nutritionniste donc, mais aussi psychomotricien, diététicien, psychologue, infirmier et aide-soignant. Une trentaine de personnes au total. Quand les consultations ne suffisent plus, c'est là qu'ils interviennent. Les admissions sont d'ailleurs étudiées au cas par cas.
Y a des patients qui viennent de leur propre chef. Il y en a certains qui sont adressés par un médecin généraliste ou un médecin spécialisé en TCA mais en ambulatoire. Et en fait, à chaque fois, ils remplissent un document côté médecin, côté patient, que nous, on lit en équipe de la même manière, hein, en pluridisciplinarité avec psychiatre et nutritionniste. Et on évalue en fait un petit peu l'urgence de la demande pour voir comment on va orienter le patient. Si ça va être sur de la consultation, sur un hôpital de jour, ou si il va falloir l'hospitaliser rapidement. Il nous faut quand même des éléments sur le plan médical, pur, notamment pour moi, parce que pour vous donner une idée, l'IMC normal, il est entre 18,5 et 25, et nous, on peut accueillir des patients qui ont des IMC qui vont de 10 à 45 pour les IMC les extrêmes qu'on a accueillis. Et pour moi, c'est essentiel de savoir si la patiente elle est en dénutrition très sévère, si elle a perdu du poids très vite, ou au contraire, si elle a pris du poids très vite, c'est des critères de sévérité. Donc il nous faut des éléments médicaux, à la fois sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique. Et il nous faut aussi le ressenti de la patiente. Qu'est-ce qu'elle se sent prête à faire, elle ou il d'ailleurs, se sent prête à faire. Et quel type de soins, vers quel type de soins il s'oriente.
Chacun son rôle, mais tous sont complémentaires. Résultat, une meilleure prise en charge pour les patients, parce que tout est réuni en un même lieu et les professionnels de santé se réunissent régulièrement pour échanger sur l'état et l'avancée de chacun.
C'est toute la richesse de travailler en pluridisciplinarité, c'est qu'en fait, on se rend compte que on perçoit les mêmes choses à des niveaux différents. Pardon, par exemple, il y a une certaine distorsion entre ce qui est vu par la patiente ou imaginé et la réalité. Moi, je le vois sur le plan alimentaire, on le voit sur la pesée, le psychomotricien va le voir au niveau de l'image du corps. Donc en fait, on fait des staffs deux fois par semaine entre nous pour justement confronter nos points de vue et pouvoir aider la patiente à repérer ces symptômes-là et à travailler dessus.
Comme me l'expliquent les docteurs Galvez et Sanchez, les soins sont décidés avec le patient, et sont mises en place sur la durée. L'unité est donc un lieu de vie à part entière, avec une chambre, un salon, des espaces partagés. Les sorties sont autorisées, mais dépendent bien sûr de l'état de forme des patients. Il n'y a pas de coupure avec l'extérieur, comme ça peut se faire parfois, et ils peuvent recevoir des visites. Des ateliers sont organisés avec les différents professionnels qui sont sur place, comme par exemple des psychologues, et certains moments sont clés, comme bien sûr les repas.
Les journées, elles sont rythmées par les repas. Donc il y a le petit déjeuner qui se fait en chambre et ensuite il y a les repas thérapeutiques midi et soir avec des temps pré-repas, de la relaxation, des temps post-repas avec le café, la tisane, mais aussi des temps d'évaluation avec les soignants. Et dans l'unité d'hospitalisation complète, le matin, c'est plutôt dédié aux soins somatiques parce qu'il y a le passage des infirmiers, on est un service universitaire, donc il y a des externes, des internes qui passent voir les patients tous les jours. Et l'après-midi, il y a différents ateliers en fonction des journées. Il y a des ateliers avec la psychologue, mais aussi avec le psychomotricien, avec la diététicienne. Donc toutes les journées sont rythmées un peu sur le même modèle, mais elles sont toutes différentes.
Et pour l'hôpital de jour, en fait, les journées, pareil, sont rythmées par le repas du midi. Il n'y a qu'un seul repas. Et pour tout ce qui est, il y a des ateliers matin et après-midi et des rendez-vous en individuel.
Les repas, ça a été pensé pendant très longtemps. En fait, encore une fois, ça dépend du niveau de dénutrition. puisque quand on est en dénutrition extrême, on ne peut pas se réalimenter du jour au lendemain, même si on n'a pas de troubles alimentaires. Et dans le cadre des troubles alimentaires, bah, c'est encore plus compliqué. Donc il y a tout un soin nutritionnel qui est adapté au niveau de sévérité de la dénutrition. Donc dans un premier temps, ça va plutôt se faire en chambre avec des repas qui sont souvent composés de yaourts, de légumes, enfin des choses qui sont à la fois safe pour l'organisme dans le contexte de la renutrition et à la fois des aliments qui sont pas trop compliqués pour le côté psychologique et psychiatrique de la maladie. Et puis on s'expose petit à petit à des aliments en plus grande quantité, en plus grande diversité, jusqu'à faire des repas thérapeutiques ou les repas thérapeutiques qui sont constitués sous forme de self, donc pour réapprendre aussi aux patients à se servir dans des quantités qui sont adaptées. Donc ça, c'est là on réapprend aussi le contexte convivial, puisque le repas thérapeutique il se fait à plusieurs, accompagné de soignants. Donc c'est pour réapprendre un petit peu plutôt le côté social de l'alimentation.
Le docteur Galvez me guide dans un dédale de couloirs. Toute seule, impossible de m'y retrouver. Au-delà de son bureau, l'accès est fermé. Il faut un badge pour passer la porte. Alors non, pas pour empêcher les patients de sortir. Eux, ils sont libres de leurs allées et venues. Non, plutôt pour empêcher toute intrusion extérieure. Une question de sécurité, en somme. Les murs sont peints avec une bande couleur saumon. Un choix du docteur Galvez. Pas sûr que ça fasse l'unanimité, me confie-t-il d'ailleurs avec un sourire. Ils n'ont pas encore passé l'épreuve du temps, mais ils semblent enlever un peu de ce côté austère si caractéristique des hôpitaux. Et c'est dans la chambre d'une patiente que nos pas vont nous mener. Elle a courageusement accepté de témoigner, de me raconter son histoire. Je l'appellerai Sarah. La chambre de Sarah ressemble à une chambre d'hôpital classique. Le fameux lit blanc, une fenêtre, une table avec quelques vêtements posés dessus, une armoire et une salle de bain, séparée par une porte bien fermée. Sarah a 24 ans. Avant de commencer l'interview, elle va me préciser qu'elle articule très peu, mais sans forcément s'en rendre compte. Pour elle, dans sa tête, quand elle parle, elle articule, tout sort très clairement. Mais en fait, sa bouche est très pâteuse. Elle a d'ailleurs besoin de boire de l'eau régulièrement et elle ne réalise pas toujours qu'elle n'a pas à détacher les mots. Elle me demande d'ailleurs elle-même de la faire répéter si elle n'est pas très claire. De temps en temps, la sonde qui l'alimente et à laquelle elle est reliée en permanence émet un petit vrombissement. Si Sarah est là aujourd'hui, c'est pour se battre.
La maladie, donc la voix de la maladie, il faut sortir. Pour être honnête, vraiment, c'est des fois, j'en peux plus, je me dis, je vais me casser d'ici, je vais vivre en appartement. Mais c'est pas moi qui parle, c'est la maladie qui veut prendre tout contrôle. Parce que je suis en foyer et que c'est pas moi qui contrôle les repas, c'est pas moi qui... Enfin, bref. Et que le maître mot de la maladie, c'est le contrôle, justement. Donc, voilà, les choses qui sont incontrôlables, ça fait mal.
Il y a 5 ans, elle a fait une première anorexie, niée par son entourage. Elle n'est pas prise en charge, elle perd beaucoup de poids et elle en reprend via le cannabis, via les fonces dalles comme elle les appelle, jusqu'à basculer dans l'obésité. Et là, de ses propres mots, elle pète un plomb. Elle perd 25 kilos en 6 mois et se limite à 400 calories par jour.
Et en fait, je m'en veux parce que j'ai cherché en enfance à devenir anorexie. Et d'avoir réussi, la première fois, ça m'a satisfaite. Mais une fois que j'étais plus dans le déni, ça m'a blessée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et je m'en suis jamais réellement sortie. J'ai toujours eu le TCA, même dans mes prises de poids et dans mes pertes de poids. Le TCA, il était là, juste, il tournait. Et ça changeait de TCA, mais il y avait toujours un souci au niveau alimentaire.
Ce qui me frappe chez Sarah, pendant toute notre discussion, c'est son courage, sa volonté de se soigner et surtout sa lucidité sur sa maladie. Elle est capable de savoir quand c'est la maladie qui parle et quand c'est elle, la jeune fille qui veut s'en sortir.
Déjà, il faut avoir du courage pour se prouver qu'on est malade. Parce que dans l'anorexie, il y a une grosse période de déni. Et je peux mentir, cette période, elle est merveilleuse. On a l'impression de jamais se sentir aussi heureux que dans cette phase de déni. Quand on est là à réussir à ne pas manger, voir les autres s'empiffrer. C'est normalement, pour nous, ils s'empiffrent. S'empiffrer comme ça, et nous on est plus ok parce que nous on avance, on a besoin de ça pour avancer. On peut courir, on peut marcher, on peut faire du sport, on peut parler. Et puis un jour, la maladie elle tombe, le masque tombe, et là on se sent malade. C'est là où c'est très douloureux. Et c'est là où on se rend compte qu'on est parti très loin et on se demande comment on va sortir. Et voilà. Donc. On s'en sort, on peut s'en sortir. C'est difficile, je peux mentir, c'est très difficile, mais on peut s'en sortir.
Les TCA, pour elle et pour beaucoup d'autres personnes, c'est un combat quotidien, notamment dans l'assiette.
Je passe mon temps à compter les calories, le nombre de frais, le nombre de bouchées, le nombre de mâchouilles, enfin tout. Et j'essaie de me détacher de ça, et ouais, c'est pour ça que j'ai la sonde d'ailleurs, parce que j'arrivais pas à m'alimenter correctement. Vraiment, par exemple, j'arrivais pas à aller au-delà des 400 calories. Et en fait, j'ai enregistré dans mes mémoires visuellement, je sais quelle quantité il peut y avoir, enfin, approximativement, hein, évidemment. Mais après, combien de grammes il y a dans l'assiette. Mais j'essaye de l'effacer de mes mémoires, en fait, de dire bah non, c'est pas des calories, c'est de l'alimentation, c'est pas des calories, c'est de l'alimentation. Et, c'est quelque chose qui est très dur de se détacher de ce chiffre. En fait, parce que dans l'anorexie, tout est chiffre. On voit que ça tout le temps. Tout est chiffre et corps, en fait. C'est-à-dire, on se voit obèse, mais on fait du 32. Parce que c'est jamais assez maigre, c'est jamais assez poussé.
Et quand je demande à Sarah si elle a un objectif, un but, sa réponse est là aussi très lucide, très claire.
Déjà, j'aimerais pouvoir manger la porte de mes toilettes ouverte sans qu'il y ait de risque de vomissement. Ce qui est aujourd'hui n'est pas possible. Enfin là j'ai lâché la sonde donc je pourrais pas vomir, c'est trop dangereux. Mais admettons, il y a une fois une infirmière qui a manqué de vigilance, elle a débarrassé mon plateau, elle a directement ouvert la porte, puis j'ai vomi.
Dans sa salle de bain, il y a d'ailleurs un autre ennemi, le miroir. Pour tous les patients, il peut être caché par un petit voile. Le rapport à l'image, c'est souvent très compliqué pour celles et ceux qui sont atteints de TCA.
C'est compliqué et c'est obsédant à la fois. C'est-à-dire que dans la rue, ou même dès que je peux voir mon reflet, je suis tout le temps en train de me vérifier, de voir si j'ai grossi, si ou que ce soit. Et je me vois toujours si grosse tout le temps. Mais... c'est histoire de... j'ai besoin de voir à quoi je ressemble, en fait. Parfois, je passe plusieurs minutes dans le miroir et juste à ce que l'envie de scarification revienne. Et quand j'arrête, et j'ai voulu mettre un voile sur le miroir pour qu'il l'arrête, d'être là, en fait, qu'il arrête de percher et que...
Par exemple, pour les miroirs, il y a des miroirs... donc chaque patiente a une chambre individuelle et dans chaque chambre, il y a la douche, les toilettes, un lavabo avec un miroir. Et toutes les semaines, on fait des réunions soignants-soignés pour recueillir un peu justement le vécu des patientes de l'hospitalisation. Et elles nous ont justement fait le retour qu'elles aimeraient avoir un cache sur le bas du miroir. Donc c'est quelque chose qu'après, on discute entre nous, avec le psychomotricien notamment qui travaille sur l'image corporelle, pour savoir si c'est pertinent dans le sens du soin ou pas de le faire. Donc on en discute ensemble et puis après on revoit ça avec les patientes. Donc c'est quelque chose qu'on construit aussi avec elles. Le psychomotricien travaille sur l'exposition au miroir, mais ça arrive plutôt sur des fins d'hospitalisation, sur les miroirs en pied.
Et pour ce qui est de la pesée, il y a 2 pesées par semaine dans le service, accompagnées des soignants, pour qu'on puisse justement en discuter, désacraliser un petit peu ce qui se passe autour de cette pesée et pouvoir discuter justement a posteriori des ressentis de la patiente suite à la pesée.
Entre le moment où elle a été acceptée dans cette unité et le moment où elle y est entrée, Sarah a perdu 12 kilos. Et au début, elle explique que ça n'a pas été facile.
La première semaine a été assez compliquée. J'étais pas vraiment dans le soin, enfin vraiment dans le soin. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à communiquer. Enfin, ma communication c'était mes plateaux, c'est-à-dire ce que je mangeais pas du coup. Et le fait de pas manger était le même à communiquer, mais ça marchait pas bien. Dans ce sens, entre TCA, de pas manger. J'ai perdu beaucoup de poids et on me dit par contre si on continue à perdre, mon poids est un pour vous et on va mettre fin à la suite parce que si on n'arrive pas à vous aider, il y en a derrière qui a d'autres une place et qui ont envie d'être soignés. Donc je me suis dit ben non, j'ai envie d'être soignée quand même. Donc on va faire des efforts. Okay. Et puis les efforts ont été mutuels. C'est-à-dire que la semaine d'après, j'ai mangé avec une infirmière le midi. Ce qui m'a permis de réussir à réintégrer des aliments. Jamais face à l'assiette, je retouchais à des aliments. Et en fait, la femme qui est en face de moi m'a soutenue, m'a encouragée. Elle m'a dit, essayez, même si c'est un petit peu, mais essayez de goûter un petit peu à tout. Et du coup, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé de la sauce tomate, j'ai mangé du poisson sans savoir si c'était comme poisson. Enfin, des choses qui paraissaient impossibles avant, quoi. Je me tournais vers l'inconnu. Sauf que la maladie, elle aime pas l'inconnu. Elle veut tout contrôler, elle veut que tout soit carré comme ça, et tout prévoir, tout calculer tout le temps. Donc, voilà. Alors, j'avoue que quand je suis arrivée ici, je me sentais un peu imposteur parce que les filles étaient très très maigres. Et moi, je suis pas maigre, donc je me sens normal. Et du coup, je voyais, au début, je voyais que des corps, en fait. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à leur parler. Et du coup, avoir des personnalités, oublier leur corps. Et du coup, arrêter d'en être, entre guillemets, jalouse. Et de me dire, bah non, mais en fait, elles sont comme ça parce qu'elles souffrent. Enfin, on est dans l'hôpital, en fait. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Elles n'ont pas choisi d'être comme ça. Donc, toi, si t'es comme ça, tu seras pas plus heureuse que comme t'es là, en fait. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se voir les restes, tout simplement.
Il y a des comparaisons, ça on ne peut pas les éviter. Après, il y a un cadre de soins, il y a des règles dans le service hein, dont on prévient les patients et qui sont aussi discutées avec les patients. Et parmi ces règles, normalement, on ne doit pas parler de la maladie, des soins entre patients. Si on doit le faire, c'est sur des temps dédiés et animés notamment par une psychologue pour qu'il puisse justement y avoir un espace bienveillant et que ce ne soit pas dans la critique. Mais globalement, du retour qu'on a, il y a quand même de la bienveillance entre patients par rapport à ce qui peut être l'image du corps ou les soins au quotidien.
S'il y a bien une chose que Sarah souligne dans son séjour dans cette unité, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et c'est quelque chose qui la motive. Pas de jugement du personnel qui voit ces marques de scarification, pas de jugement du personnel face à ces TCA. Ils sont là pour l'aider, pour l'accompagner, et c'est motivant. Et si Sarah avait un conseil à donner, ce serait celui-là.
Alors, un conseil à une personne qui voudrait perdre du poids. Surtout ne téléchargez jamais d'application qui est compliquée à lever. C'est l'enfer. En fait, moi j'ai rejeté comme ça. C'est-à-dire, j'ai téléchargé mon application. Je me suis dit comme ça, je vais être sûre de manger ce qu'il faut. Sauf que c'était à coup de 1400 calories. Mais puis après, je me suis dit, c'est beaucoup, on va baisser. Puis on va baisser. Puis on va baisser. Et en fait, l'application elle va servir à voir qu'on mange très peu. Plutôt que voir qu'on mange correctement. C'est un cercle vicieux et c'est limite, cette application est limite addictive en fait. C'est-à-dire, j'ai rentré tout ce que je bois, tout ce que je mange, tous les sports que je fais, tout est noté là-dedans et j'arrive pas à penser pareil. Les calories, c'est l'enfer. C'est vraiment ne jamais compter les calories. Même si on veut aider, même si on ne surpoise ça, c'est les calories. C'est la merde.
À terme, l'unité a un objectif de 15 lits en hôpital de nuit. Quant aux patients qui sont déjà sortis, ils viennent une fois par semaine pour un suivi avec les équipes. En France, les TCA concernent entre 600 000 et 800 000 personnes, dont 90% de femmes.
Merci Clara Etchari. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.